9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, je vous rappelle qu'AVS, ça veut dire à votre santé. Bonjour, bienvenue, bon début de semaine à tous. Mon invité ce matin est le professeur Christian Perron. Bienvenue professeur.
Bonjour.
Vous êtes médecin et professeur des universités, praticien hospitalier, spécialiste des pathologies tropicales et des maladies infectieuses émergentes. Vous êtes ancien chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Je tiens à rappeler que vous avez été président du comité technique des vaccinations pendant plusieurs années. C'est un comité qui est chargé d'élaborer les recommandations vaccinales en France et que vous avez été également à l'OMS, vice-président du groupe Étage, qui est un groupe d'experts chargé d'élaborer la politique vaccinale de l'OMS. Tout ça pour dire que finalement, vous n'êtes pas un anti-vax et que vous n'êtes pas devenu anti-vax, mais pour vous, c'est important de le rappeler. Hein.
Oui, c'est important. Et d'ailleurs, je remercie la chambre disciplinaire du Conseil de l'Ordre des médecins, parce que j'avais été convoqué au mois de septembre, qui dans son jugement, d'ailleurs, qui m'a acquitté de toutes les attaques, a bien précisé que je n'avais jamais eu de propos anti-vax depuis le début de la crise Covid, contrairement à ce que certains médias et beaucoup d'experts ou pseudo-experts ont balancé tous les jours.
On appelle ça les toutologues. Alors, vous êtes là pour nous parler de votre nouveau livre, s'appelle « Les 33 questions auxquelles ils n'ont toujours pas répondu ». Chez Albin Michel, vous expliquez que dans ce livre, vous avez lu des kilomètres d'études et de rapports disponibles. Ce qui est paradoxal, c'est que les études, elles existent et elles sont super faciles à trouver, en fait.
Elles sont faciles à trouver, simplement, ce sont les médias principaux qui n'en parlent pas. Et il y a, vous savez, tous ces groupes qui s'appellent fact-checkers et autres qui sont soi-disant sont là pour faire respecter la vérité scientifique, ils ne lisent pas ces études et dès qu'on les cite, on est traité de complotiste. Et c'est ça qui est dingue, c'est qu'on essaye de museler la science. Alors peut-être que toutes ces études citées sont pas toutes de la meilleure qualité, je reconnais, mais elles apportent des informations très importantes. Et tous ces groupes de recherche officiels qui ont beaucoup d'argent, qui pourraient faire avancer les choses, au lieu de s'appuyer sur ces études, certes quelquefois imparfaites, en disant ben là c'est très intéressant, on a une bonne piste, on va la confirmer par une étude un peu plus musclée, ben ils le refusent, ils ne mettent pas un sou pour confirmer ce qui a été dit. D'ailleurs, on l'a vu dans l'étude Discovery, qui était la grande étude française qui devait tout démontrer.
La fameuse étude, il y avait un biais.
Alors, il y avait un groupe qui était avec l'hydroxychloroquine. Puis quand ils sont aperçus que le seul groupe qui marchait bien, c'était le groupe hydroxychloroquine, ils sont empressés d'arrêter les inclusions. Et Olivier Véran avait pris prétexte de l'étude frauduleuse du Lancet. Vous vous souvenez, c'est une étude totalement frauduleuse où les données étaient inventées pour casser l'hydroxychloroquine en disant que ça marchait pas, que c'était dangereux. Et donc Véran a fait arrêter l'inclusion dans les études. Et après, on s'est aperçu par des fuites que le seul groupe qui marchait, c'était le groupe hydroxychloroquine. Et dans l'étude e-Covid à Angers, qui avait été aussi demandée par le ministre, le seul groupe qui marchait bien, c'était hydroxychloroquine plus azithromycine. Et tout ça, ça a été étouffé, on n'en a plus jamais parlé. Mais sur les plateaux, les experts ont dit, Discovery, alors qu'il n'a jamais été publié, dont on n'a jamais vu les résultats finaux, a montré que ça ne marchait pas. Vous voyez, c'est sans arrêt, on renverse l'évidence.
Alors, vous étiez poursuivi par le Conseil national de l'Ordre des médecins pour voix discordante sur de nombreux sujets, comme donc la vaccination, le port des masques, les traitements, et pour ne pas avoir eu la même ligne que celle du gouvernement. Vous avez été entendu par la Chambre disciplinaire d'Île-de-France de l'Ordre des médecins, et elle vous a donné raison dans une décision qui a été rendue il y a quelques jours, le 21 octobre. Alors, qu'est-ce qu'on vous reprochait précisément? Et ce qui est intéressant, c'est quelles sont les conclusions de cette chambre disciplinaire d'Île-de-France de l'Ordre des médecins.
Alors, le plus fort, je ne dirais pas ce qu'on m'a reproché, mais le plus fort dans la décision de la chambre disciplinaire, c'est qu'ils ont dit, au vu de mon CV, de mon expérience nationale, internationale, j'étais une des personnes les plus à même de juger de la situation. Donc non seulement c'était un droit pour moi de parler, et éventuellement d'avoir une voix discordante de celle des autorités, mais c'était une obligation. Le Conseil de l'Ordre m'a dit, vous étiez tenu, obligé de parler si vous n'étiez pas d'accord, parce que vous aviez la compétence pour le faire. Donc c'est totalement énorme, et ça restaure la liberté d'expression des médecins, des professeurs d'université. Et ça, faut saluer ça, parce que c'est courageux, alors qu'on sait que le Conseil d'État avait dit exactement l'inverse peu de temps avant. Alors après, sur ce qui m'était reproché, en fait, quand on regarde dans le dossier, il n'y a rien de bien méchant. Quand j'avais dit ils ont laissé crever mon beau-frère, c'est un fait. Moi, je pouvais pas faire venir mon beau-frère à Paris parce qu'il y avait le confinement, les ambulances pouvaient pas aller de Nantes à Paris. Mais j'ai jamais cité l'hôpital. On a dit que j'avais cité le CHU de Nantes. J'ai pas cité le CHU de Nantes. Il n'était pas hospitalisé là. J'ai jamais cité le nom de médecin. Et quand j'ai dit ils ont laissé crever mon beau-frère et que je me souviens c'était chez Morandini qui m'a dit mais alors vous accusez les médecins. Je dis non, moi j'accuse pas les médecins, c'est pas de leur faute. Ils étaient sous ordre de l'administration et c'est ça que je reproche. Donc, vous voyez, c'était pas une et le Conseil de l'Ordre a reconnu qu'il y avait aucune attaque déontologique contre les confrères. Bon, le mot crever, maintenant je le regrette, il était peut-être un peu fort, mais j'avais dit ça sous le coup de l'émotion parce que mon beau-frère venait de mourir et là j'étais en direct à la télévision, c'est mes tripes qui ont parlé, mais voilà, j'ai pas attaqué des médecins, au contraire j'ai dit c'est pas de leur faute, ils étaient sous influence. Donc voilà, il y avait ça, il y avait le fait que j'ai soutenu l'hydroxychloroquine. Bon, c'était pas vraiment écrit dans les attaques, enfin c'était un petit peu quand même en souterrain. Bah, de toute façon, maintenant, l'hydroxychloroquine, il n'y a plus un seul doute sur la planète que ça marche, parce que même s'il n'y a pas eu la grande étude randomisée attendue, il y a des méta-analyses, des gens qui analysent tout ce qui est publié. Bon, c'est largement en faveur et tous les pays qui l'ont largement utilisé, il y a eu beaucoup moins de morts qu'ailleurs. Après, il y a eu l'hiver.
Alors, sur l'hydroxychloroquine, que dit la Chambre?
Elle s'est pas prononcée. Elle a dit que tout ce que j'avais dit ne mettait pas en danger les Français, j'avais pas porté atteinte à la gestion de la crise finalement par mes paroles. Après, qu'est-ce qu'ils m'ont reproché? En fait, il y avait pas énormément de choses. Hein. C'était que j'avais dit du mal de certaines instances dans le Haut Conseil de la Santé Publique. Donc j'ai rappelé au jury que moi j'étais président pendant des années de la commission maladies transmissibles du Haut Conseil de la Santé Publique. Avant j'étais président du Conseil supérieur d'hygiène publique de France qui remplissait les mêmes fonctions, là quoi l'institution a un peu changé de nom. Moi j'ai dit je connais par cœur le fonctionnement, c'est moi avec quelques collègues qui avons écrit les procédures, les règlements intérieurs, la gestion des conflits d'intérêts, la façon de voter, etc. Et j'ai dit là, ce que j'ai attaqué, c'est pas l'institution, c'est que tout a été fait de façon totalement illégale. Quand ils ont rendu des avis, il n'y avait pas de vote, il n'y avait pas de déclaration des conflits d'intérêts. Donc le président, la vice-présidente de la commission, plusieurs membres avaient des conflits d'intérêts majeurs. Ils n'auraient jamais dû participer à la discussion. Alors je dis même pas au vote, parce qu'il n'y a même pas eu de vote.
Alors un conflit d'intérêt pour tout le monde, donc on explique bien.
Un conflit d'intérêt, c'est quelqu'un qui a reçu de l'argent de l'industrie pharmaceutique. Donc on a le droit de toucher de l'argent, on a le droit de travailler pour l'industrie, je ne condamne pas. Simplement, quand on touche de l'argent de l'industrie et que après ça, les poches pleines, on va dans une commission officielle pour donner un avis qui peut concerner des produits fabriqués par le laboratoire pharmaceutique qui vous a financé, vous n'êtes pas libre, parce que vous allez plutôt essayer de dire du bien de la molécule du labo qui vous a financé ou dire du mal du concurrent. Donc,
sauf si vous êtes très indépendant.
Voilà. Mais normalement, vous devez le déclarer, ce qu'ont fait certains, mais pas tous en totalité, parce que les conventions, souvent, la somme n'est pas marquée sur les sites. Hein. Donc voilà. Donc, moi, quand j'étais président, quelqu'un qui avait un conflit d'intérêt majeur avec un sujet à l'ordre du jour pouvait donner son avis, mais après, si c'était un sujet un peu chaud, je lui demandais de quitter la pièce. Il ne participait pas à la discussion finale, il ne participait pas au vote, c'était écrit dans le compte-rendu. Et puis, alors, en plus, ce qui était terrible, c'est qu'il n'y a même pas eu de vote, et que la moitié, je me souviens, de décisions du Haut Conseil, où la moitié des gens qui ont participé pour rendre la recommandation n'étaient pas membres du Haut Conseil, ils n'avaient rien à faire là. Et puis, en plus, moi, j'ai demandé les enregistrements, parce que, moi, quand j'étais président, depuis la loi Bertrand, après le médiateur, toutes les réunions du Haut Conseil doivent être enregistrées. Et quand j'ai demandé les enregistrements, on m'a dit, ah ben non, il n'y a pas eu d'enregistrement. C'est-à-dire que c'est encore illégal. Et le Conseil de l'Ordre, ils étaient impressionnés parce qu'ils ont vu que, moi, j'attaquais pas comme ça de façon à la légère. J'ai été président de ces commissions pendant 15 ans. Je sais de quoi je parle. Et même, on a même fait une plainte auprès du Conseil d'État pour dénoncer ça. Puis le Conseil d'État dit, oui, non, mais c'est vrai, c'est pas fait comme d'habitude, mais c'est normal, on était en guerre, il y avait urgence. J'ai dit, maintenant, tout ce qui est illégal devient légal, validé par le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel. C'est là que je suis très inquiet pour notre démocratie, parce que ça fonctionne plus comme normalement. Et finalement, au sein du Conseil de l'Ordre, il y a beaucoup de médecins très respectables qui sont engagés au sein du Conseil de l'Ordre plutôt pour rendre service. Et moi, j'ai trouvé qu'ils avaient super bien étudié le dossier. Ils avaient épluché tous les documents qu'on leur avait envoyés. Ils ont fait un travail très sérieux, il faut reconnaître ça. Après, ils ont posé des questions complémentaires pour...
Le Conseil de l'Ordre va faire appel ?
Alors, le Conseil national. A écrit pour dire qu'ils... qu'ils sont obligés de l'écrire dans un certain délai, sinon ils ne peuvent plus faire appel. Il y a des règles.
C'est les procédures, oui.
Mais ils prendront la décision de faire appel, et puis tous les griefs qu'éventuellement ils pourraient continuer à me reprocher, ils vont décider de tout ça dans la réunion plénière du Conseil national de l'Ordre, des médecins au mois de décembre. Donc on verra bien d'ici là. Il y aura encore quelques scandales qui vont sortir d'ici.
Bon, vous estimez que votre honneur est lavé ?
Ah oui, je pense, parce que bon, j'étais pas très inquiet parce que je savais que j'étais dans la vérité. Je savais que je pouvais pas être sanctionné de façon très dure parce que moi j'ai commis aucun crime. J'ai toujours été au service des malades toute ma carrière. J'ai rendu service à la France. J'ai travaillé comme un dingue pour aider les instances et le ministère pour gérer des crises. Je peux être très fier de tout le parcours que j'ai eu. Après, j'avais le droit quand même d'exprimer mon opinion quand je voyais que les mesures actuelles depuis 2 ans et demi sont totalement délirantes dans certains cas. Et voilà, et ça n'a pas plu à sûrement à un certain monsieur Macron et puis à un certain monsieur Véran et à d'autres.
Ne nous fâchez pas avec des gens qui sont encore en activité.
Non, je ne fâche pas du tout.
Qui sont encore au pouvoir. D'ailleurs, c'est une des questions que vous vous posez dans votre livre. C'est, vous vous demandez comment certaines personnes sont encore en fonction aujourd'hui. Vous citez dans votre livre, puisque vous le faites, hein, c'est Olivier Véran, par exemple.
Qu'est-ce que vous voulez, tant que ces gens sont protégés, ils se croient tout permis. Et prennent des mesures qui... Ce qui m'a frappé dans toute cette crise, c'est que la plupart des mesures n'étaient jamais basées sur la science. Contrairement à ce qu'ils disaient, parce que, vous savez, dans les... Les gens qui voulaient nous démolir, quand je dis moi, c'est un peu les complotistes en général.
Alors, ceux qu'on appelle les complotistes, parmi ceux qu'on appelle les complotistes, il y a des vrais complotistes quand même.
Voilà, oui, sûrement. Mais, ouais, bon. Mais complotiste, ça veut dire être en... Pour moi, c'est avoir raison souvent longtemps avant tout le monde, en tout cas sur ces sujets-là.
Mais quand on a raison trop longtemps en avance, c'est qu'on a tort.
Ah voilà, c'est pas toujours bien vu.
Vous voyez, c'est ça. Vous avez compté vos amis pendant ces 2 ans et demi ?
Oui, il y en a. Alors, c'est ça qui est incroyable, c'est que beaucoup d'anciens amis n'ont plus fait signe. Certains m'ont carrément dit, bon, Christian, on peut pas te suivre, on n'est pas d'accord. Bon, j'ai pas insisté. Mais c'était une expérience incroyable, c'est que je me suis fait 10 fois plus de nouveaux amis qui sont des gens bien plus sincères, avec qui je me sens beaucoup plus en symbiose, même dans la vie courante. Donc ça a été l'occasion de retrouver des nouvelles relations. Et j'ai trouvé ça une période finalement difficile, mais sur le plan humain, une période très riche.
Mais au niveau du mindset, comme on dit aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour traverser une crise d'une telle violence, parce qu'il y a eu des attaques contre vous?
Ouais, c'est parce que... Bon, j'avais déjà été... On en avait parlé, j'étais venu chez vous il y a quelques années sur la maladie de Lyme.
Déjà qui était moins médiatique, mais où déjà vous aviez mis le pied dans le plat.
Et donc, je m'étais déjà un petit peu blindé. Je me suis fait une peau de crocodile parce que j'avais subi des attaques sur la maladie de Lyme de la part d'experts, de sociétés savantes, d'autorités, etc. Alors que finalement, avec le recul, on voit que, encore une fois, je pense que j'avais raison, mais pour des raisons un peu politiques, la maladie de Lyme n'a pas le droit d'exister. Mais donc j'étais déjà un peu blindé, j'avais déjà vu la manipulation des données de santé publique dans la maladie de Lyme. Et quand la crise du Covid est arrivée, hop, ça m'a sauté à la figure. J'ai vu que ça tournait pas rond, j'ai essayé de donner une parole de vérité pendant 2 ans et demi. Et même quand on m'a attaqué... Bon, c'est vrai que quelquefois, c'était un peu humiliant. Les premières convocations au Conseil de l'Ordre au mois de juillet 2020, parce qu'il y avait un jeune interne qui a fait une pétition pour que je sois convoqué au Conseil de l'Ordre et radié. Bon, mais après, progressivement, ça finit par glisser sur moi, parce que j'ai vu que...
Vous n'avez pas été radié, hein.
Ah non, mais j'étais complètement acquis. Mais le Conseil de l'Ordre
m'a... Faut l'expliquer, ça. Hein.
Le Conseil de l'Ordre m'a remercié, quoi, m'a dit que j'étais tout à fait dans mon droit et que j'avais même l'obligation de parler. Donc, il m'a totalement lavé de toutes les attaques.
Plus que vous n'avez été démis de vos fonctions à Garges. Hein.
Alors, parce que j'ai pris ma retraite spontanément, là, au mois de mars dernier. Et même quand Martha Hirsch, il pouvait pas me radier de ma fonction de médecin, c'était pas, Martha Hirsch, pour ceux qui savent pas, c'était le directeur de l'assistance publique hôpitaux de Paris, le groupe des hôpitaux auquel appartient toujours l'hôpital de Garches. Il m'avait convoqué au mois de décembre 2020, probablement sous pression de personnes au placé, il pouvait pas me radier, c'était pas de sa compétence, il pouvait pas me virer de mon poste de professeur de médecine, c'était pas de sa compétence, donc il m'a supprimé ma chefferie de service. Mais c'était ridicule, parce que 3 mois après, je rendais spontanément ma chefferie de service 1 an avant de prendre ma retraite, il le savait très bien, je le faisais spontanément parce qu'il fallait refaire un dossier de renouvellement avec un énorme dossier pour 50 de chefferie. Donc voilà, donc c'était mesquin de leur part, et ça ne m'a pas empêché de vivre.
Bien, ça c'était pour votre actualité judiciaire. Le professeur Christian Perron est notre invité jusqu'à 10h.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS, avec Philippe Robichon.
Voilà, et nous recevons ce matin le professeur Christian Perron. Je rappelle que vous publiez les 33 questions auxquelles ils n'ont toujours pas répondu aux éditions Albin Michel. Vous revenez sur ces 2 ans et demi ou un peu plus de catastrophe sanitaire ou pas ?
C'est pas une catastrophe sanitaire, c'est une catastrophe politique, médiatique, financière, sociale. Mais ce virus n'a pas été finalement si méchant que ça. Malheureusement, il y a eu beaucoup de morts, surtout à la première vague, parce qu'après, le virus était de moins en moins virulent, de moins en moins méchant. Donc, il faut quand même avoir beaucoup de respect pour ces personnes, surtout les personnes très âgées, les grands obèses, les gens qui avaient des hypertensions artérielles très sévères ou des grands diabétiques qui ont le plus souffert. Ce qui me désole, c'est que dès le début, on le savait déjà par des études randomisées en Chine, même avant Raoult, que la chloroquine marchait, que tout ça était interdit. Donc, normalement, la plupart des personnes malades auraient dû être soignées, ce qui a pas été le cas, qui dans le monde a été la cause de beaucoup de morts, sauf dans les pays qui ont soigné. C'est pour ça que c'est intéressant de comparer les pays. Attendez, j'ai oublié le début de votre question, du coup, c'était de...
Non, je voulais simplement avoir votre avis, professeur. Alors, vous parliez des pays, justement, dans de nombreux pays. Il y a eu des études sur les pays qui ont bien géré la crise, hein, oui. Du Covid. Quels sont les pays qui l'ont bien géré?
Alors, les pays qui ont bien géré, d'abord, c'est les pays pauvres, qui n'ont pas utilisé ces produits qu'on a appelés vaccins, ou très peu. Et ce sont les pays qui, de par tradition ancestrale, avaient l'habitude de la chloroquine, de l'hydroxychloroquine, des médecines naturelles, des plantes, parce que par exemple, il y a des plantes comme l'artémisia, je crois que c'est le Ramsevara, quoi. Il y a d'autres plantes qui, en tout cas, au laboratoire...
Ravinsara, sont... non? Non, comment vous dites?
Je me suis trompé.
Non, je ne sais pas, peut-être Ravinsara ou...
Oui. Ouais. Bon, ces plantes, ça s'était montré dans des études publiées au laboratoire qui marchaient sur le coronavirus. Et elle avait déjà été utilisée en Chine à l'occasion du premier SRAS, le premier coronavirus de la chauve-souris, il y a plusieurs années. Donc voilà, il y a des pays qui sont basés sur des médecines pas chères. Il y a aussi la nigelle, hein, c'est le cumin noir, qui est connu des gens qui sont spécialisés un petit peu dans le traitement par les plantes. Et une étude randomisée, donc contre... comparaison de groupe au Pakistan pendant le Covid, qui avait montré aussi que la nigelle, qui est très connue d'ailleurs dans le monde musulman, parce que le prophète en avait fait l'apologie, a été efficace.
La nigelle guérit de tout.
Voilà, c'est ce qu'avait dit le prophète. Mais là, en tout cas, en l'occurrence, sur le Covid, c'est aussi efficace. Donc voilà, ce qui m'a frappé, c'est que les pays qui avaient gardé leur bon sens, qui isolaient les malades, mais sans mettre toute la population sous cloche, qui géraient au quotidien, qui traitaient les cas, sans mettre des masques dans la rue, ont parfaitement géré. Et ce sont les pays riches, qui étaient sous l'influence de Big Pharma, qui ont eu les pires résultats. Et, par exemple, regardez, il y a deux grands pays, alors il y en a un qui est encore plus grand que l'autre, mais deux pays asiatiques très peuplés, bon, le Vietnam... C'est quand même quelques dizaines de millions d'habitants.
Et alors, c'est vrai que c'est un exemple dont personne n'a parlé quasiment.
Alors, la première année, je me souviens, j'étais impressionné. Je disais, chapeau les Vietnamiens, parce qu'ils avaient eu beaucoup de cas, mais ce n'était pas si méchant. Ils avaient bien géré, traité. Et au bout d'une année, ils avaient quelques dizaines de morts dans tout le Vietnam. C'était un chiffre de morts extrêmement faible. Et puis un jour, il y a un Vietnamien, j'avais encore une page Facebook avant qu'elle soit censurée, qui m'avait envoyé un message. Oh, là, je suis inquiet parce qu'un de nos ministres revient du Forum économique mondial à Davos et il va imposer la vaccination. Et effectivement, j'ai un ami français qui habitait au Vietnam qui m'a montré des villes ou des villages où l'armée arrivait, rassemblait la population pour les vacciner presque de force. Et c'était en juillet 2021. Et d'un seul coup, l'épidémie a flambé au Vietnam. Il y a eu beaucoup de morts. Mon ami français, l'autre jour, il m'a envoyé un message en disant à Saïgon, quand ils ont vacciné en masse, ils ont eu plusieurs milliers de morts d'un coup. Et puis, heureusement, le gouvernement vietnamien a arrêté et tout est rentré dans l'ordre. En Inde, c'est 1 milliard et presque 400 millions d'individus, donc c'est pas Monaco, hein, c'est une population gigantesque. Et c'est pareil, la première année, ça se passait bien. Le gouvernement indien distribuait de l'hydroxychloroquine, de la vitamine D, des antibiotiques aux habitants pour pas cher, quelques roupies. Et puis est arrivé les lobbies pharmaceutiques, sont arrivés les lobbies. Et dans 3 États, dans l'État de Bombay, donc qui s'appelle Mumbai maintenant, les gouvernements régionaux ont interdit l'ivermectine, qui est l'autre médicament très efficace. Ils ont imposé l'inoculation des soi-disant vaccins. Même le gouvernement français a fait cadeau du remdesivir dont on ne savait plus quoi faire parce qu'il ne marchait pas, qu'il était toxique. Donc gentiment, on en a fait cadeau aux Indiens. Et là, c'était la catastrophe. C'était à la même période, juillet 2021. Explosion de l'épidémie, que dans les 3 États qui inoculaient le vaccin, pas dans les autres. Des morts. Et heureusement, le gouvernement fédéral a très bien géré. Il a dit, bon, on arrête les frais. On arrête les inoculations de vaccins et on donne de l'ivermectine pour tout le monde avec la vitamine D, les antibiotiques. Et en Inde, il y a encore un peu d'épidémie, mais il n'y a plus de problème de santé publique, c'est terminé. Donc, quand on compare comme ça des pays...
C'est... Alors, est-ce que vous voulez bien comprendre aussi l'exemple du Brésil ?
Oui, au Brésil, c'était la pagaille, parce que... Au Brésil, bon, le Bolsonaro a dit, bon, on s'en remet à la bonne nature, ça va se faire tout seul. Et alors, le Brésil, il faut comprendre que c'est très hétérogène. Il y a des populations très européanisées, d'autres qui ont des modes de vie très différents. Il y a des gens qui sont plutôt riches en bonne santé, maigres. Et puis, il y a des populations pauvres, obèses, diabétiques. Il y a des populations qui sont très loin des centres de santé, qui n'ont pas de médecins. Et c'était vraiment géré de façon très différente d'un État à l'autre. Quand on regarde le Brésil, il y a eu des États, des médecins qui ont fait un travail fantastique, qui ont guéri tous leurs patients. Et puis dans d'autres États, c'était la catastrophe, c'était un peu laissé aller, les gens n'avaient pas accès aux soins. Donc c'était un petit peu, c'était trop hétérogène au Brésil. Effectivement, il y a eu beaucoup de morts parce que ça n'a pas été géré de façon homogène. Et c'est dommage. Alors après, quand on regarde des pays hispanophones d'Amérique du Sud, ont beaucoup mieux géré. Moi, je suivais régulièrement. Souvent, il y avait beaucoup moins de morts dans d'autres pays d'Amérique du Sud qui avaient une politique un peu plus homogène et qui favorisait plus facilement probablement les traitements.
À qui est-ce qu'on a sous-traité cette question de la crise du Covid en France ?
Alors, en France, ça a été géré... de toute façon, ça n'a pas été sous-traité, c'était sur-traité, si je peux dire quoi. C'était imposé, je pense, par l'industrie pharmaceutique. Mais sinon, les gens qui ont géré, c'est le conseil scientifique. Ce qui me choque, moi, j'ai géré des crises sanitaires pendant des années avec plein de gouvernements de droite, de gauche. En France, il y a normalement toutes les agences, les instituts... Pour les conseils officiels pour gérer des crises. Il faut s'appuyer sur les gens qui ont l'habitude d'abord de faire des recommandations en routine, qui ont déjà géré des crises, qui ont déjà eu les mains dans le cambouis, c'est eux qui vont être à même de prendre les bonnes décisions. On ne sort pas du chapeau à un comité Tartampion, un comité Théodule, un conseil de défense avec des gens qui n'ont jamais géré d'épidémie Peut-être qu'ils ont un CV qui n'est pas...
Pourtant, Delfrécy, il avait quand même un CV...
Oui, mais il n'a jamais géré d'épidémie, Delfrécy. C'est un immunologiste, c'est pas un infectiologue, qui a travaillé sur le sida, quasi exclusivement, bon, même s'il s'est intéressé à d'autres sujets de maladies émergentes en Afrique. Et il y a une prise de pouvoir des médecins qui s'occupaient du sida sur les maladies infectieuses, qui était pas très logique à mon avis, parce que le sida c'est très particulier dans les maladies infectieuses, ça représente pas l'ensemble. Et moi ça m'a choqué qu'on délègue comme ça des nouveaux comités qui sortaient du chapeau. Et alors moi j'étais, Jean-François Delfrécy, moi je l'ai connu quand il était interne en 1978, Nos parcours se sont croisés plusieurs fois. J'ai travaillé un peu avec lui sur le sida. Je le connais très bien. Et ça m'a rassuré, mais je dis, bon, c'est dommage, il l'a fait un peu trop tard. Quand il a quitté le conseil scientifique, qui était dissous, là, au mois de juillet dernier, à l'Élysée, il a quand même déclaré, ben, quand on regarde toutes les mesures qu'on a prises, l'effet était quasi nul. Finalement, ce vaccin, il est pas bon, il n'empêche pas la transmission, il protège pas les malades. On aurait dû laisser le virus circuler pour donner l'immunité naturelle. On n'aurait jamais dû prendre des mesures contre les libertés. Et on aurait dû demander l'avis de la population. Donc, qui dit ça en partant, j'ai dit chapeau, moi c'est ce que je pense depuis très longtemps. Alors j'avais senti déjà depuis plus d'un an, de temps en temps il craquait un peu, il commençait à dire des choses un peu divergentes de la doxa officielle. Mais en partant quand même, il s'est rapproché de des positions des personnes comme moi qui n'étaient pas d'accord avec la gestion. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il est parti. Hein,
La parole se libère, hein, finalement, quand vous n'êtes plus en activité. C'est le professeur Christian Perronne qui est notre invité jusqu'à 10h.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon.
Christian Perronne qui est notre invité ce matin à l'occasion de la publication de votre livre qui s'appelle « Les 33 questions auxquelles ils n'ont toujours pas répondu » chez Albin Michel. J'ai appris un mot en lisant votre livre, c'est le mot « possisymptomatique ». Qu'est-ce que ça veut dire « possisymptomatique » ?
Alors, c'est du grec. « Possis », ça veut dire « pas beaucoup ». Ça veut dire qu'il y a très peu de symptômes en grec. Alors, c'est vrai que c'est un terme qui est plus médical, qu'on utilise fréquemment en médecine, mais qui n'est pas toujours forcément compréhensible.
Oui, alors vous étonnez, par exemple, qu'on ait préféré en France faire travailler dans les hôpitaux des personnes qui étaient positives au Covid et qui étaient soit asymptomatiques, soit possi-symptomatiques, plutôt que des personnes non covidées et qui n'étaient pas vaccinées.
Oui, c'était aberrant. Et on a eu la même chose avec les pompiers quand il y avait l'incendie dans les Landes, où on interdisait aux pompiers volontaires non vaccinés d'aller au feu. C'est bien connu que au milieu d'un incendie, il y a beaucoup de Covid et que on faisait venir des pompiers d'Europe de l'Est qui n'étaient pas vaccinés. Mais eux, comme ils venaient d'Europe de l'Est, ils avaient le droit de travailler en France. Donc voilà, il y a des aberrations totales, surtout maintenant qu'on sait que ces vaccins ne protègent absolument pas contre la transmission.
Est-ce qu'un vaccin, ça protège contre la transmission ?
Bien sûr, toujours. Quand vous vaccinez massivement une population contre une maladie, faut un certain niveau, quelquefois il faut les 3/4, 80% de la population est vaccinée, la maladie s'arrête obligatoirement ou presque en totalité, quoi. Mais ce qui est fou, c'est qu'on a pris toutes ces mesures de restriction contre le personnel, au nom de que soi-disant ça avait un effet sur la transmission. Souvenez-vous l'année dernière sur les plateaux, Olivier Véran, des experts infectiologues, j'ai revu des vidéos, j'étais écroulé de rire là, qui disaient maintenant on a la preuve scientifique que ce vaccin protège à 95% contre la transmission. Ils n'avaient aucune donnée, c'est avoué maintenant, même par une dirigeante de Pfizer au plus haut niveau mondial, qui dit on n'a aucune donnée pour dire ça. Et maintenant on a la preuve que ça marche pas, même Delfrécy l'a dit en partant. Et malgré ça,
c'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils ont répété des éléments de langage que les laboratoires leur donnaient.
Bien sûr.
C'est ça qu'il faut qu'on...
Oui, oui. Ouais. Mais quand je vois, par exemple, il y a une association qui s'appelle France Asso Santé, qui a une espèce de coordination des associations de malades, un petit peu qui accrédite les associations qui ont le droit d'aller dans les instances, comme à la Haute Autorité de Santé, pour participer aux discussions sur des recommandations. Cette semaine, ils viennent d'envoyer une lettre publique pour dire qu'ils étaient contre le rétablissement des soignants non vaccinés. Donc c'est honteux. Pour moi, quand je vois ça, je suis horrifié, parce que sur quoi ils se basent, alors que maintenant, dans le monde entier, il n'y a plus que la France, quasiment, les soignants ne sont pas rétablis. Ils ont été rétablis en Grande-Bretagne déjà avant, au début de l'été. Ils ont été rétablis en Italie. Ils ont été rétablis maintenant à la ville de New York. Ils ont été rétablis en Belgique. En Suisse, ils n'ont jamais été virés. Alors la France va rester isolée comme ça, avec des gens qui continuent à raconter des âneries, en dire qu'il faut inoculer ces produits expérimentaux. En plus, l'obligation est totalement illégale, il faut quand même le rappeler, parce que on est toujours en phase expérimentale, et dans les traités dans les lois nationales, dans les traités internationaux, c'est totalement interdit contre le consentement de quelqu'un de lui imposer un médicament quel qu'il soit, encore plus une injection d'un produit expérimental.
Ceci dit, la vaccination n'a pas été rendue obligatoire.
Si, chez les soignants, chez les pompiers, chez les policiers.
Mais sur la population.
C'est une obligation déguisée, parce que vous ne pouviez plus aller nulle part, vous ne pouviez plus prendre le train, vous ne pouviez plus aller voir votre grand-mère à la maison de retraite, vous ne pouviez plus aller à la salle de gym, vous ne pouviez plus aller au café, plus au restaurant, plus au cinéma, vous ne pouviez plus rien faire. Et il y a beaucoup de gens qui se sont laissés faire pour pensant qu'ils allaient retrouver une vie sociale, mais en fait, souvent, ça n'a pas été le cas vraiment. Et je crois que le pire, c'est la façon dont on a laissé mourir de chagrin, isoler les personnes âgées dans les maisons de retraite. Ça, c'est, pour moi, c'était un acte barbare contre nos anciens.
D'ailleurs, Delfrécy le regrette quand il quitte.
Il regrette beaucoup de choses, mais
le conseil, il le dit, ça, vous voyez.
C'est quand même lui qui, au début, avait décidé des confinements, etc. Donc, je veux bien qu'il regrette maintenant, mais enfin, on avait déjà dit tout ça il y a 2 ans, en disant tout ça n'a aucun sens, surtout que les confinements, dès le début, la Suède avait montré que ça ne servait à rien. Après, il y a eu même les masques dans la rue. Ah oui, vous retrouvez, là, j'étais dans le métro, je regardais mon téléphone, je vois aujourd'hui l'Académie de médecine qui dit qu'il faut remettre les masques parce qu'il y a la grippe.
Il y a 3 choses qui circulent.
Le Covid, la broncholite, c'est les nourrissons. On ne va pas masquer les nourrissons. Et c'est complètement abracadabrant, parce que maintenant, on a la démonstration que les masques en population générale ne servent à rien. C'était montré au Danemark, à Hong Kong, pendant la crise Covid. Alors, qu'il y a un masque dans la chambre, quand quelqu'un tousse, crache pour protéger soit le personnel soignant, soit la famille, et puis que un masque est utile dans une chambre chez un malade qui a des symptômes. Mais un masque dans la rue, ça ne sert strictement à rien. Alors que quelqu'un qui soit angoissé porte un masque, ben, ça ne dérange pas. Que quelqu'un qui tousse mette un masque pour protéger d'autres personnes dans le métro, je trouve ça plutôt un geste citoyen. Mais c'est l'obligation des masques comme ça. Et que l'Académie de médecine donne des recommandations sans aucune donnée scientifique, moi je dis où sont tombées toutes ces institutions, quoi. À un moment donné, il va falloir quand même que toutes ces personnes qui prennent des décisions sans aucune base scientifique rendent des comptes, et puis que c'est plus possible.
Alors, vous avez consulté le rapport de la Cour des comptes, vous avez consulté un rapport de 702 pages du Sénat, vous avez bien du courage, hein, et qui s'intéresse notamment au rôle qu'ont joué les cabinets de conseil dans cette crise. Quand je vous parlais de sous-traitance, je pensais à eux.
Ah oui, bien sûr, vous avez oublié.
Tout à l'heure, le quoi qu'il en coûte. Alors, on dit que McKinsey aurait décidé de quitter la France. Alors,
il paraît qu'ils sont embarrassés d'être affichés trop proches de notre président et tout ça. Bon, ça, c'est leur problème. Il faut rappeler quand même que le directeur médical de McKinsey, c'est le fils de Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel. Mais c'est un hasard complet, il n'y a pas de conflit d'intérêts. Alors, ce n'est pas moi qui parle de ces cabinets de conseil. Il y a McKinsey, puis il y en a au moins 2 autres.
Il y en a 2 autres hein, qui sont cités.
J'ai oublié les noms, d'ailleurs, parce qu'ils sont moins célèbres.
McKinsey, Sitwell et Accenture.
Voilà.
Ou Accenture,
Et c'est le Sénat qui le dit, ils ont repéré dans les comptes que le gouvernement avait donné plus d'un milliard d'euros à ces cabinets. Et puis quand on regarde ce qu'ils disent, finalement les rapports qu'ils ont produits, c'était des rapports un peu maigrelets. Il n'y avait pas de données fondamentales. Tout ce travail aurait pu être fait de façon parfaite par les fonctionnaires qui ont l'habitude dans les différents ministères qui travaillent depuis des années. Mais c'est vrai que dans les ministères, ils ont affaibli les capacités de travail. Moi, quand j'étais président des commissions il y a une quinzaine d'années, il y avait beaucoup, par exemple, pour le ministère de la Santé, il y avait beaucoup à la Direction Générale de la Santé des médecins de santé publique remarquables qui nous aidaient, qui animaient des groupes de travail. C'était des gens fantastiques. Et puis, petit à petit, pour faire les économies, ils ont tous disparu.
Alors, vous expliquez dans votre livre que, par exemple, les consultants de ces cabinets américains avaient des adresses électroniques qui étaient santé.gouv.fr.
Ah ben oui, c'est une infiltration de notre système avec la caution du gouvernement. C'est ça qui est scandaleux, parce que les Français ne savent pas qu'on fait passer pour fonctionnaires des infiltrés de l'étranger qui... Et moi, ce qui m'impressionne là-dedans, c'est que ces cabinets de conseil, c'est eux qui sont responsables du fait que la même décision pouvait être prise à Paris, en Australie, au Canada, en Espagne.
C'est-à-dire qu'en fait, ils étaient là pour uniformiser les politiques, c'est ça ?
Je pense, parce que pourquoi les mêmes décisions étaient prises partout, et quelquefois des décisions totalement illogiques étaient prises le même jour partout. Là, vous voyez, bon, ça n'a peut-être rien à voir, mais comme en ce moment, moi j'étais l'autre jour au Parlement européen, il y avait une réunion que j'ai trouvée absolument délirante où il disait qu'il faut augmenter la suppression de la liberté d'expression dans les médias pour protéger la liberté de nos démocraties. On nage en plein délire. Là, récemment, donc, on a une ministre qui dit faut supprimer, il faut augmenter la censure dans les médias. On est dans ce trip de suppression des libertés d'expression, c'est dramatique. Moi, on avait fermé ma page Facebook il y a un an et demi pour appel à la haine et à la violence, comme si j'avais une tête à appeler à la haine et à la violence.
Et elle est toujours fermée ?
Ah oui, elle est toujours fermée, oui. Ah ben oui, moi, je suis le diable, alors elle est fermée. Alors, j'ai vu, alors c'est peut-être pas encore établi, mais j'ai vu l'autre jour, là, sur Internet, qu'il y avait trois pays qui étaient en train de réfléchir à mettre en place un ministère de la vérité. Je crois que c'est la France, le Canada et l'Australie. En même temps, le même jour, trois pays décident de la même chose. Donc là, je me dis, il y a quand même des gens influents, et je pense que ça passe par ces cabinets qui...
Mais ces cabinets ont influé sur les politiques qui ont été prises et les décisions qui ont été prises.
Ah ben, c'est le Sénat qui le dit, c'est pas moi, ça semble évident. Parce que c'est quand même eux qui ont dirigé pas mal de choses en sous-main. Et ça, c'est pas normal. Surtout au prix qu'ils le facturent. Mais j'ai vu la même chose dans les...
Un milliard, hein, encore une fois, le chiffre qui est avancé, c'est un milliard d'euros. Oui. C'est ce que ça
alors, c'est pas grand-chose par rapport aux 3 milliards d'euros que le président a donné en un an et demi aux médias principaux. Mais bon, il y a beaucoup d'argent quand ça les arrange, et puis il n'y en a plus quand ça ne les arrange pas. Quoi, c'est ça.
Alors là, on arrive à la 8e vague. Vous pensiez que ça durerait si longtemps quand ça a démarré
Mais, c'est-à-dire que ces virus qu'on appelle ARN, bon, c'est un terme un peu technique, c'est comme le virus de la grippe ou d'autres virus, quand ils arrivent sur une population, un nouveau variant qui arrive sur une population nouvelle, comme le virus de la première vague, il sortait tout frais du laboratoire, là, il était un petit peu virulent, même s'il a été moins que ce que...
Comment ça, il sortait tout frais du laboratoire?
Parce qu'il était modifié en laboratoire. Maintenant, il n'y a plus personne qui le nie. C'est reconnu maintenant par plein de gens dans le monde entier, des plus grands scientifiques et même des politiciens. Donc, il était un petit peu méchant au début, mais après, il a perdu de sa virulence sans arrêt.
Mais d'un laboratoire où?
Ah ben, il y a les brevets de l'Institut Pasteur 2015, il y a les brevets de Chapel Hill aux États-Unis, puis il y a l'histoire de Wuhan où Anthony Fauci a financé le laboratoire de Wuhan aussi pour ce qu'on appelle le gain de fonction, c'est-à-dire augmenter la virulence d'un virus déjà connu. Bon, et puis tout récemment, bon, il n'est pas encore sorti du labo, mais ça a été médiatisé. Il y a un virus, il y a une équipe de Boston qui était très fière d'avoir fabriqué un nouveau coronavirus qui tuait 80% des souris. Donc c'est évident que tout le monde travaille à modifier les virus. Il n'y a pas un pays plus coupable que l'autre. Hein. Et à l'Institut Pasteur, bon, au départ, ils l'ont dit, c'était peut-être une noble intention. Ils ont fait ça pour... c'était un communiqué de Pasteur pour... chercher sur un vaccin pour le sida ou le paludisme. Donc voilà. Et on sait que ce virus n'est pas naturel. Il y a des inclusions de. Donc alors, pour revenir à un virus nouveau.
Voilà, oui. Cette 8e vague qui arrive alors, et qui nous menace.
Même si c'est un virus naturel, il arrive sur l'homme, il est méchant au début, à la première vague. Et après, toujours, il y a des rebonds parce qu'il y a des variants. Et puis il y a des petites vagues de moins en moins fortes. Mais si chaque année, parce que des coronavirus, il y en a des centaines de variants qui ne sont pas le coronavirus du Covid-19, mais qui donnent des rhumes, des bronchites chez l'homme depuis des siècles. Si à chaque fois on faisait le journal de 20 heures spécialisé, attention, il y a la 8e vague du coronavirus Tartampion qui a donné des rhumes l'année dernière, il est en train d'arriver... Tout ça, c'est les médias qui sont responsables de ces vagues, parce que quand on regarde maintenant... Alors, il y a encore des gens qui font des infections à coronavirus, mais la plupart du temps, c'est des rhumes, des bronchites. Malheureusement, il y a encore quelques formes sévères chez des gens très fragiles. Mais comme on sait qu'il y a des traitements qui marchent, l'hydroxychloroquine, l'ivermectine, les antibiotiques, la vitamine D, le zinc, tout ça, maintenant, je crois qu'il n'y a plus beaucoup de doutes si on est de bonne foi quand on regarde ce qui se passe dans le monde.
Il y a la pilule Pfizer aussi qui marche bien, non?
Oui, mais on s'en fout, il n'y a pas besoin, parce qu'il y a des trucs pas chers.
Je taquine, je vous cherche, vous partez pas au quart de tour, là.
Et même si on veut prendre un petit peu avec recul, moi je regardais, parce que je n'ai pas fait les chiffres tout le temps, mais cet été, je regardais en mois de juillet, la mortalité en France du Covid, c'était 0,002%. Alors qu'il y a des années, la grippe, elle est plus sévère que ça. Et on n'en faisait pas tout un fromage. Donc maintenant...
Cette 8e vague, alors comment est-ce qu'on doit l'aborder?
Avec le mépris. Et puis, si on est malade, on va voir son médecin qui vous prescrit les médicaments qui marchent. Si le médecin veut pas, vous prenez des médecines naturelles qui peuvent marcher. C'est un peu triste que je sois obligé de recommander des médecines naturelles. Mais
si pourquoi c'est triste?
Parce que c'est la médecine, les médecines naturelles à base de plantes notamment ont été discréditées, surtout en France. Je rappelle que l'artémisia, qui est une plante remarquable que les Asiatiques et les Africains ont beaucoup utilisée, est toujours interdite à la vente en France. Donc les gens se la procurent sur Internet à l'étranger. Oui, j'ai parlé de la nigelle tout à l'heure. Il y a d'autres plantes en Afrique connues qui marchent. Moi, j'y crois parce qu'il y a eu même certaines études randomisées. Mais c'est quand même dommage qu'un médecin traitant, alors qu'il a légalement le droit de prescrire l'hydroxychloroquine, l'ivermectine, il faut qu'il mentionne hors AMM, c'est-à-dire hors autorisation de mise sur le marché sur l'ordonnance, pour respecter la loi Bertrand. Mais ce qui est un petit peu dégoûtant, c'est que si le médecin marque hors AMM, le patient est obligé de payer lui-même son ordonnance, il ne sera pas remboursé. Bon, ces médicaments coûtent 3 francs 6 sous, donc ça ne va pas les ruiner, mais c'est quand même... Parce que là, il y a des médecins qui sont attaqués actuellement par le Conseil de l'Ordre ou la Caisse d'assurance maladie. On leur demande de rembourser toutes les ordonnances qu'ils ont faites. Parce que c'est la loi Bertrand qui était un peu excessive dans ce domaine-là.
Mmh. Et la suite, professeur Perron, est dans votre nouveau livre. Vous n'y allez pas de main morte quand même. Hein. Les 33 questions auxquelles ils n'ont toujours pas répondu, c'est chez Albin Michel, la parole d'un homme libre. Aujourd'hui, encore plus libre que d'habitude. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et puis vous verrez cette vidéo sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous, professeur.
Merci beurrefm.
Et très belle journée santé sur beurrefm.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli beurrefm.